On ne vous entend pas bien.
Il y avait une sourate qui disait « pas vu, pas pris ».
Ah, oui.
Il n'y avait pas cette confiance personnelle comme chez nous. Et si on a fait un péché tout seul, en fait, ce n'est pas grave. Oui.
Alors, ce n'est pas du tout dans le Coran, ça. Il n'y a ni sourate, ni verset qui disent ça. Par contre, c'est un dicton. Un dicton qui est dans le monde arabe. Je ne sais pas si dans les autres pays musulmans, dans les autres cultures musulmanes, ce dicton existe. Je n'ai pas vérifié. Mais dans le monde arabe, oui. Pas vu, pas pris. Ça veut dire que si l'homme pêche, mais qu'il n'est pas vu, eh bien, il n'est pas passible de la loi. Voyez. Donc, c'est... Ça fausse évidemment la conscience, c'est sûr. On peut dire que dans l'islam, le critère de la conscience, de la morale plutôt, c'est est-ce que ça sert la cause de l'islam. Quand ça sert la cause de l'islam, il est permis de tuer, de mentir. Je vous ai raconté l'anecdote hier avec Mahomet et le péché. De toute façon, on va y revenir sur ces questions de violence et tout ça. Voilà, ça je vous l'ai dit. Ah oui, c'est ça, une précision aussi. Souvent, on entend dire des musulmans, quand ils qualifient leur religion, ils disent « Nous sommes la religion du juste milieu ». Alors, la tendance spontanée dans nos cultures, c'est de dire « Alors, la religion du juste milieu, ça veut, c'est-à-dire la religion de la modération ». Je pense que c'est comme ça que vous réagiriez, non ? Alors, non, la vraie définition, la vraie compréhension de la formule religion du juste milieu, c'est en fait une religion qui ne supporte pas les excès, mais les excès dans le bien, si vous voulez, voyez. C'est une religion adaptée à l'homme qui est créé faible. Oui. Le juste milieu, juste ce que l'homme peut supporter. En aucun cas, l'homme ne peut accéder à la perfection ou au dépassement de soi. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais pour beaucoup de musulmans, le fait que les chrétiens essaient de se dépasser, comme leur demande Jésus dans l'Évangile, eh bien c'est excessif, c'est une attitude excessive. Encore une fois, pour eux, la perfection n'appartient qu'à Dieu. On reviendra sur cette question quand je vous parlerai du martyr. Oui. Ah ben oui, ça. Ben oui, c'est pour ça que je...
Comment ils réagissent quand on leur dit ça ? Finalement, Dieu peut tout, même, le faire dépasser.
Oui, mais c'est pour ça que je dis que le Coran est une œuvre humaine. Il n'accepte pas que Dieu se révèle. Voilà. Alors, maintenant, le contact avec Dieu, voyez, même à travers la prière rituelle, il se fait par l'intermédiaire d'une loi et d'un livre, et non pas d'une personne à imiter. Nous cherchons à imiter Jésus-Christ en principe, une personne. Ce qui compte dans l'islam, c'est la loi. Dieu garde ses distances envers l'homme, je vous l'ai déjà dit, il domine l'homme. Alors là, il y a des musulmans qui, évidemment, qui sont sensibles et qui disent « mais la domination de Dieu, c'est insupportable, etc. » Alors ils ont trouvé dans le Coran un verset où il est dit que Dieu... Dieu est proche de la veine jugulaire. C'est la veine du cou, la veine jugulaire. C'est dans la sourate 50, verset 16. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça? En fait, ce n'est pas une proximité spirituelle dont il s'agit, mais les interprètes, en majorité, expliquent que le fait que Dieu est proche de l'homme par sa veine jugulaire, c'est en fait une proximité de surveillance. Ben oui, Dieu surveille l'homme. Donc normalement, la familiarité et l'intimité avec Dieu sont des attitudes suspectes. Dans l'islam, on n'est pas invité à rechercher l'union d'amour avec Dieu. Dans l'évangile, il y a cette phrase magnifique, Jésus dit « Demeurez en moi et moi en vous ». C'est impensable du point de vue musulman. Donc la loi, la distance entre Dieu et l'homme. Et pourtant, dans le monde musulman, se sont développés des mouvements mystiques. Je vais vous en parler. mais ils se sont développés en marge de la religion officielle. Et en principe, ils ne concernent qu'une minorité de fidèles musulmans. Alors l'essentiel de ces mouvements, on les s'inscrivent dans le cadre du soufisme. Oui, S-O-U-F-I-S-M-E. Très tôt dans l'histoire de l'islam, des croyants ont cherché un contact avec Dieu, ont cherché à entrer en communication personnelle avec Dieu. Et cette recherche, elle passe souvent par la pratique d'un ascétisme rigoureux. Une mise à l'écart du monde, par exemple. Alors, le soufisme, donc, qui découle de cette recherche, il a pris corps en Irak, en Mésopotamie, comme on disait alors, au 8e siècle. Le mot soufisme, son étymologie, vient du mot arabe souf, qui veut dire laine. Parce que les premiers membres du soufisme s'habillaient de robes de laine. Et le mot est resté. Hein. Donc on était surtout à Bagdad, là. Mais dès le début, les soufis ont été persécutés. En fait, au fil des siècles, le mouvement soufi a connu des hauts et des bas. Alors, il y a un soufi très célèbre qui a été persécuté à Bagdad en 922. Il s'appelle Al-Hallaj, H-A-2-L-A-J. Son histoire est vraiment pathétique. Il allait très loin dans la recherche d'une relation avec Dieu. Et c'est vrai que quand on lit ses paroles, c'est même très excessif. Il disait « Je suis la vérité ». C'est pas lui qui est la vérité, bien sûr. Et alors il a été arrêté et condamné à des tortures affreuses. Il a été battu, bien sûr, pendu, son corps coupé en morceaux et à la fin son cadavre brûlé et les cendres dispersées du haut d'un minaret d'une mosquée à Bagdad. J'ai vu la mosquée en question en plein centre de la vieille ville de Bagdad. On m'a dit c'est de là que les cendres de Al-Hallaj ont été dispersées. Il y a un Français musulman qui a écrit un très beau livre sur Al-Hallaj, si ça vous intéresse. Vraiment, il raconte tout ça. L'auteur s'appelle Kebir, K-E-B-I-R, c'est son prénom, Ami, A-2-M-I, évocation de Al-Hallaj, martyr mystique de l'islam. C'est paru aux presses de la Renaissance en 2003. Mais cela dit, malgré le drame vécu par Al-Hallaj, le soufisme a persévéré et on peut dire qu'il a atteint son sommet au XIe siècle. Avec un personnage très connu en Occident, personnage musulman, Razali, G-H-A-Z-A-L-I. Peut-être que vous en avez entendu parler, Razali. Razali était un maître spirituel qui s'est efforcé de réconcilier l'approche spirituelle avec l'approche politico-religieuse de l'islam. Vous voyez ? Alors, le soufisme s'est organisé en confrérie. En confrérie. Tous les pays musulmans ne connaissent pas le soufisme parce que en principe, c'est interdit par la loi. Hein. C'est une approche qui n'est pas requise par le Coran, de recherche de relations personnelles avec Dieu. Donc souvent, comme on a vu pour le Al-Hallaj, les mouvements soufis sont cantonnés et donc très minoritaires. Donc ce n'est pas dans tous les pays qu'on trouve des confréries musulmanes, soufis. Notamment, alors on en trouve beaucoup au Maghreb, au Maroc, en Tunisie et en Algérie. En Égypte, il y en a très très peu. Et à ce sujet, depuis la révolution en Égypte, j'ai appris que des militants musulmans intégristes ont détruit les petits temples des soufis qu'il y avait en Égypte. Pour eux, c'est du paganisme. Au Liban et en Syrie, je n'ai jamais vu de mouvement soufi, ni en Jordanie d'ailleurs, en Palestine non plus. En Turquie, il y en a. Il y a des confréries. qui relèvent du soufisme. On ne les appelle pas soufis. Par exemple, vous avez sûrement entendu parler des derviches tourneurs. Hein, ça vous dit quelque chose. Vous savez, ils tournent sur eux-mêmes jusqu'à chercher le contact avec la divinité. C'est un genre d'extase qu'on recherche. Alors, au début du XXe siècle, Atatürk, quand il a installé la République, a mis hors la loi les confréries. Mais les confréries ont quand même survécu dans la clandestinité. Et c'est d'une de ces confréries qu'est issu le Premier ministre actuel de la Turquie, Erdogan. Et vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que souvent on dit les mouvements soufis ou les mouvements mystiques incarnent une vision modérée de l'islam. Et pourtant, Erdogan est un islamiste, vous voyez. Et c'est finalement par ses confréries en Turquie que l'islam, qui était maltraité par Atatürk, a survécu dans la clandestinité et donc a donné naissance à des idéologies islamistes. Donc c'est vrai que beaucoup de soufis sont authentiquement modérés, mais que ce n'est pas une garantie. Ce n'est pas parce que le soufisme existe que c'est un synonyme automatique de modération. Alors il y a beaucoup de confréries soufis, oui, en Afrique subsaharienne, hein, dans l'Afrique noire. Voilà pour le soufisme.